Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
On aurait très bien pu se laisser porter par les courants marins, faire le tour de la planète tout entière, mais on a profité de l'occasion pour rester bien ancré en place dans notre petit confort de notre studio.
Bien sûr.
À bon port, évidemment.
Ouf que t'es marin, toi, aujourd'hui.
Oui, absolument. Et tu sais pourquoi?
Non.
Ben parce que nous allons parler, nous allons aller faire un tour dans les fonds marins aujourd'hui.
Oh, ah,
c'est vrai. Hein?
Ça va être intéressant.
Oui,
oui, très intéressant.
Avec
Monsieur Pierre Arnaud Dessiage de la Commission géologique du Canada.
OK, parce que il y a pas que des poissons qui grouillent dans les fonds marins. Là.
Non, il y a bien d'autres choses, ça a de l'air.
Ouais. Et même qu'aux profondeurs où eux autres, ils vont, là.
Oui. C'est assez profond. Hein?
C'est creux, creux, creux,
ouais, c'est
creux.
C'est pas mal creux.
C'est très,
vont.
Très creux.
Vous allez voir, c'est drôlement intéressant ce qu'il y a à nous dire le monsieur. Puis aujourd'hui, en passant, on a aussi une chronique techno.
Oui.
Avec notre ami Pierre Chauvin.
Parfait.
Qui se joindra à nous un petit peu plus tard dans l'émission.
OK. Et on commence avec quoi?
De quelle façon t'as proposé à ta blonde, toi?
Moi, c'est à Noël.
C'est à Noël?
Ouais, c'était assez... Okay, tu veux dire pour le mariage?
Ouais, ouais.
Ouais, c'était à Noël.
C'est assez classique.
C'est assez classique. Ouais, ouais, oui. Je suis un gars de même. Moi, je suis un gars classique. Ouais. Je sors pas trop des sentiers battus. Tu sais, j'aurais pu l'amener, je sais pas, moi, quelque part d'un peu singulier. Tu sais, il y a des gens qui vont faire ça, par exemple, en bungee ou je sais pas
c'est
trop.
C'est ça,
mais...
exactement. Ou t'aurais pu faire ça sur, peut-être, je sais pas, moi, une épave.
Une épave?
Ben oui, t'aurais pu faire ça sur une épave. OK, remarque que c'est pas très sexy sur une épave, là, dépendant, là. Mais ça pourrait l'être si on parle du paquebot le plus célèbre au monde.
Ben non.
Le Titanic.
Hein?
Là, ça aurait été...
Demande en mariage.
Aïe aïe.
Aïe aïe, oui, c'est comme puissance 1000, là.
Oui, là, t'aurais gagné des points bonis, là.
Des airlousses,
oui, des
comme
airlousses.
Disait l'humoriste.
C'est ça. Tu n'avais eu comme pas mal. Et pas mal, probablement jusqu'à la fin de tes jours.
Ben, ça dépend.
Il y a l'agence française Apotheo Surprise, qui est spécialisée dans les demandes en mariage, un petit peu originales, uh-huh. disons, qui propose de demander la main de votre partenaire à 3821 mètres de profondeur.
Aïe aïe.
Au large de Terre-Neuve, bien entendu, là où repose l'épave du Titanic. C'est un voyage, on pourrait dire, OK, l'idéal de la demande en mariage, bien entendu. Par contre, ça va te prendre un compte de banque relativement bien garni, puisque le coût de ce petit voyage idyllique s'élève à 1 million d'euros.
Ouais, c'est ce que je pensais.
Ben, attends une minute, là. Attends une minute. OK, ça vaut la peine.
Okay. Convainc-moi.
Oui, je vais te convaincre, OK? c'est vraiment quand même un beau voyage à bord d'un navire d'expédition. T'as une plongée de 6 heures dans un submersible,
oui,
qui va te faire découvrir l'épave, premièrement, du paquebot.
Mm-hmm.
Puis, la demande en mariage à l'avant du Titanic... À l'endroit même où Jack a crié « Je suis le maître du monde ».
Oui, dans le
dans
film.
Dans le fameux film de James Cameron.
Oui.
Et le clou du spectacle, mon cher ami.
Feu d'artifice sous-marin. Je sais pas. Non, mais tant qu'à...
Tant qu'à faire.
Non,
tant qu'à... Non! C'est la chanson « My Heart Will Go On » de Céline Dion qui va retentir au moment de mettre le genou à terre.
Aïe, 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 aïe.
1 million d'euros, mon cher.
L'art de mélanger quelque chose qui, en principe, aurait pu très bien tourner.
Oui.
la demande en mariage sur le pont du Titanic, mais,
ouais, mais là,
je veux pas déplaire aux fans de Céline, mais d'ajouter la chanson du Titanic en background avec le genou à terre, ça frise un peu le quétaine.
Ben, je...
À peine.
Mais tu sais, pour 1 million, quand même, fallait avoir une belle voix, tu sais.
Oui, mais... Pour pas mal moins cher que ça, tu sais que tu peux t'acheter pour quelques centaines de piastres 2 bons billets de baseball.
Absolument, puis être sur l'écran géant.
Aller t'asseoir dans un stade de balle.
Oui.
Et apparaître sur le Jumbotron, ou je sais pas trop comment qu'ils appellent ça, l'espèce de grande télévision grand écran géant.
Oui.
Et là, t'étales ça, pas juste à ta blonde, mais comme à la face du monde ou à peu près.
Exactement.
Là.
Oui, oui.
Tu me diras que ça fait un peu quétaine aussi.
Et ça va coûter juste 250$.
Oui, puis quoi, 2000$ en hot dog puis en bière, parce que dans
c'est à peu près ça que ça coûte à cette heure.
C'est quasiment rendu plus cher de manger.
Ça coûte plus cher de manger que de sièges. Et les sièges, déjà, c'est plus vraiment abordable.
Ouais.
On s'entend.
Mais enfin, OK.
Hey, ça. Alors, 1 million d'euros pour dire à ta blonde, veux-tu me marier?
Ça m'a coûté pas mal moins cher que ça pour ma demande en mariage en temps des fêtes. Hein? C'est ça. Hein? OK. On va aller sur un ton un petit peu moins réjouissant.
OK.
Parce qu'il y a une étude qui vient de paraître, c'est encore tout récent, il y a quelques jours que c'est paru, et qui nous apprend qu'on aurait besoin de plus de 300 000 nouveaux logements locatifs d'ici combien d'années d'après toi? Dans un très proche avenir.
5 ans.
D'ici 2026.
Ouch. C'est 3 ans, ça, là.
C'est 3 ans. Et tout ça pour répondre aux besoins croissants de la population. Ce sont des informations qui émanent de la Banque Royale. Qui vient de rendre publique une étude qui nous dit que, oui, effectivement, on manque de loyers. Et pas qu'un peu.
Ben, et à voir, Simon, les grues un peu partout dans les grandes villes. Je pense qu'il y en a qui ont compris un petit peu le message, là, de construire des tours et des tours et des tours et des tours.
Oui, mais je vais aller là dans un instant et tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'il y a, OK, construire, c'est une affaire.
Oui. Mais que ce soit abordable.
Aha!
Ah, OK.
Voilà. C'est principalement l'augmentation du nombre de ménages qui va expliquer, évidemment, cette demande croissante, on le comprend, mais il y a aussi, dû à ça, le vieillissement de la population. Les gens vendent la maison, ils s'en vont avant de passer
dans un condo.
C'est ça, exactement. Et, on l'aura deviné, l'arrivée de nouveaux immigrants. Parce que quand, évidemment, on accueille ces gens-là, encore faut-il qu'ils trouvent une place pour se loger.
Oui, effectivement.
Ça va donc être nécessaire d'ajouter, je disais tantôt plus de 300 000 nouveaux logements, mais le chiffre exact ou à peu près, là, c'est 332 000 logements qui devront être ajoutés au Canada au cours des seules 3 prochaines années. Pensez-y 2 secondes.
Ben oui.
Et le problème, c'est que le parc de logements locatifs au Canada n'a augmenté en 2022 que de 2,4%.
C'est tout?
C'est tout. C'est tout. OK, les mises en chantier ont grimpé au cours du mois de février dernier de 13%, mais en même temps, il y a beaucoup de pression qui se crée sur le loyer locatif parce que, oui, on construit, mais on construit pas suffisamment rapidement pour réussir à suffire à la demande. Idéalement, on dit que le taux d'inoccupation optimale devrait tourner autour de 3% à peu près.
OK.
Tu sais combien il est actuellement? Il est à 1,9%. Et c'est, mes très chers amis, le plus bas taux d'inoccupation des 21 dernières années. Ça fait 21 ans que le Canada n'a pas connu un si faible taux d'inoccupation au pays.
Et souvent, ce qui reste comme le 1,9%, c'est des loyers qui sont tellement chers.
Chers ou encore que dont le monde ne veut tout simplement
ça,
pas.
C'est ça, exactement.
Un demi sous-sol avec un plafond à 5 pieds quand tu mesures 6 pieds, tu sais, genre. Là,
exactement.
À peine. Là. Alors, pour vous faire comprendre ce qu'est le taux d'inoccupation de 1,9%, ça veut dire que pour 100 loyers qui sont disponibles, il n'y en a que 1,9 qui sont ouverts à la location actuellement. Fait que tu peux chercher longtemps.
Oui, puis tu sais, je veux dire, on entend là, dans à peu près toutes les villes, les grandes villes canadiennes, les crises de logement.
Puis l'autre problème qu'on vit, et tu y es allé tout à l'heure en évoquant justement la présence de, vous voyez pas là vous autres parce que vous êtes en train de nous entendre, mais
c'est ça.
Ce qu'on a en pleine face, là, nous là, c'est trois espèces de tours de, je dirais 15, 16 étages de
à
haut,
peu près, oui.
À peu près, au-dessus desquels sont plantées des grues mm-hmm. immenses, puis il y a des travailleurs qui s'affairent à ça. On est, pour ceux et celles d'entre vous qui nous écoutez à la grandeur du pays, l'émission est produite
À
Ottawa, dans le centre-ville. Alors, on a ça là, actuellement, là. Ça, oui. C'est du loyer locatif ou peut-être à vendre, je sais pas, là, qui est en train de se construire. Mais le problème là, qu'on vit actuellement, c'est que, oui, il manque de logement, mais il manque du logement abordable.
Ah, c'est ça. C'est plus se loger, c'est plus abordable.
C'est le nerf de la guerre.
Oh, oui.
Parce qu'avoir du logement, c'est pas pire.
Oui.
Avoir du logement que tu es capable de payer,
ben, c'est ça.
C'est encore bien mieux.
Oui.
Tu sais, quand tu payes à peu près le tiers de ton salaire dans ton loyer à chaque mois, ça tient encore debout.
Oui.
Mais quand t'es rendu.
Quand c'est la moitié. Donc.
Quand t'es rendu que tu consacres la moitié de ta paye pour te loger.
Puis avec l'inflation, t'es plus capable de te nourrir ou presque. Tu sais, à un moment donné, t'as so much d'argent à la fin du mois, là.
Problème qui se pose sans doute beaucoup moins dans les régions, dans la mesure où, évidemment, le prix du loyer en région est moins élevé qu'en ville.
Oui.
La population vieillit à ces endroits-là également. Il y a une espèce d'exode de la jeunesse. T'sais, je veux pas dire que c'est miraculeux ou que c'est une chance de voir les jeunes partir pour aller étudier en ville puis rester là, mais je veux dire, quand il y a des gens qui partent des régions pour aller rester dans les grands centres, évidemment que ça cause moins de pression sur le logement dans les régions. Mais il y a plusieurs villes canadiennes de moyenne et de grande taille qui, eux autres, vivent très, très solidement. Oui. La Banque Royale souligne dans son rapport que les mesures gouvernementales pour encourager la construction de logements sont nettement insuffisantes. Nettement insuffisantes. C'est, à toute fin utile, c'est trop peu trop tard.
Ouais.
On a beau accoucher les solutions actuellement, mais le chien court après sa queue, là, comme on dit.
Ben, parce que là, la population augmente trop vite, puis on n'est pas capable de construire assez vite.
C'est ça.
Ben là, on a un problème, là.
Et en plus, ben, puis je veux pas dire que c'est pas correct là, d'accepter des nouveaux immigrants, c'est pas ça. Mais le problème que l'on souligne, c'est que faut leur offrir des conditions décentes.
Ben
faut
oui.
Peut pas accueillir des gens comme ça puis les laisser loger dans un, une chambre de motel pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, en attendant qu'ils se trouvent un loyer décent qu'ils sont capables de se payer.
De se payer, ouais. C'est
comme pas de bon sens.
Non.
Alors, il faut, comme le souligne le rapport, que cet accès à des logements abordables de qualité se fasse, et il va falloir que tout le monde travaille en partenariat pour résoudre cette crise-là. C'est-à-dire qui? C'est-à-dire les gouvernements.
Oui.
Évidemment. Les promoteurs immobiliers et les investisseurs. Faut tout le monde mettre la main, à la pâte.
Ah oui, il y aura
faut tout le monde mettre de l'eau dans son vin et qu'à un moment donné, on se dise, c'est bien le fun d'avoir des grosses tours comme ça dans le centre-ville d'Ottawa puis de densifier la population de nos centres-villes, pas seulement ici à Ottawa, mais ailleurs, Moncton, Toronto, nommez-les. Mais encore, faut-il que...
Les gens soient capables de se payer ce loyer-là. Là.
C'est ça, sans s'étrangler, comme on dit.
Exact.
On s'arrête pour une première pause dans cette émission-ci et puis nous reviendrons dans un instant avec...
On va parler de fonds marins.
On va s'en aller faire un tour dans les fonds marins. Restez branchés.
Cette émission peut contenir des infos.
Il y a quelques semaines, on est allé faire un tour à, disons, 20-25 kilomètres des côtes à peu près de la Nouvelle-Écosse.
Oui.
Hein? On est allé faire de la pêche au homard, de la pêche au crabe. Mais aujourd'hui, on s'en va plus loin et surtout beaucoup plus profondément pour aller explorer les fonds marins.
Celui qu'on va recevoir aujourd'hui à l'émission, il est chercheur en géosciences marines et ses travaux sont axés sur l'étude des sédiments superficiels des fonds marins et la reconstruction des environnements. Il travaille à la Commission géologique du Canada à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.
Et donc, c'est une sous-entité, je pense, du ministère des Ressources naturelles canadiennes.
Effectivement, oui.
On va voir avec lui... Qu'est-ce qu'on trouve dans les fonds marins? C'est quelque chose d'assez intriguant. On sait qu'il y a une grande partie de nos océans qui n'est même pas cartographiée. On ne sait pas ce qui se passe là. Alors, on va voir avec lui qu'est-ce qu'on trouve dans les fonds océaniques canadiens, surtout. Et on va voir avec lui à quoi et à qui servent ces travaux-là. On a au bout du fil avec nous Monsieur Pierre Arnaud Desiages. Monsieur Desiages, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Desiages, si on va faire un tour dans les fonds marins autour du Canada, qu'est-ce qu'on va trouver là?
On va trouver une grande diversité de fonds, en fait, et on va trouver une belle diversité, notamment entre donc le Canada Pacifique et le Canada Atlantique, mais on va aussi trouver une certaine similarité sur, donc quand on parle de milieux très profonds, sur certaines structures ou qui peuvent accueillir certains types d'organismes. Et notamment, en fait, ce qu'on va trouver, donc nous, nos travaux... plus sur le ce que nous avons au large de la partie atlantique, donc notamment la Nouvelle-Écosse, on va retrouver en fait par exemple des suintements froids. Et ces suintements froids, ce sont des structures assez caractéristiques et assez intéressantes puisque on va les retrouver en fait à des profondeurs qui sont de l'ordre de au-delà de 2000 mètres jusqu'à 3000 mètres par exemple.
Wow.
Elles ont un intérêt qui est à la fois géologique, mais elles ont aussi un grand intérêt, on va dire écologique et biologique, puisque donc les suintements froids, ce sont des émanations de gaz, souvent de méthane ou également d'hydrocarbures sous forme de fluide. On peut notamment retrouver du sulfure d'hydrogène. Et ce sont des suintements, en fait, des émanations à une température qui est proche du milieu environnant, donc de l'ordre de 0 à 4 degrés. Ce qui est assez différent de ce qu'on a un petit peu l'habitude de voir dans les documentaires, au niveau par exemple des dorsales océaniques, où on va retrouver des sources hydrothermales, donc là vraiment des émanations très chaudes. Ce qu'on va retrouver plus au large du Canada, ça va être ces suintements froids, donc des émanations de fluides froids.
Est-ce que nos fonds marins sont différents de ce qu'on trouve ailleurs sur la planète? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui les distingue particulièrement?
Ils vont être différents et à la fois identiques. On va retrouver une grande diversité. On a à la fois une marge qui est passive du côté de l'Atlantique et on va avoir une marge qui est active du côté du Pacifique. Donc au fond de l'océan, on va retrouver des processus qui vont être très différents. Que ce soit donc sur la partie atlantique ou la partie pacifique, et on va retrouver des choses très différentes, par exemple de ce qu'on pourrait trouver dans les Antilles ou dans des zones beaucoup plus profondes, comme au niveau des dorsales océaniques, on n'a pas, notamment au large de l'Atlantique, du Canada. Donc oui, on va retrouver des choses différentes, mais on va quand même retrouver une certaine similarité en fait dans l'ensemble des fonds océaniques, que ce soit au Canada et dans le reste du monde.
Donc, même malgré les profondeurs, malgré le fait qu'on ait l'impression à la surface, quand on regarde ça, qu'à 1000, 3000 mètres de profondeur, étant donné l'absence, par exemple, de soleil ou de trucs du genre, ça pourrait être assez semblable d'un endroit à l'autre à travers la planète. Il y a quand même de grandes différences. C'est ce qu'il faut comprendre.
Il y a des grandes différences en fonction, au final, du milieu où on est, en fait. Oui, on est à des grandes profondeurs. Et par exemple, au large de l'Atlantique, donc du Canada Atlantique, on va avoir quand même des choses à ces profondeurs qui sont relativement désertiques. C'est ce qu'on va retrouver dans la plupart des océans, des milieux assez désertiques, mais sporadiquement. Et c'est ce qu'on a donc au large de la Nouvelle-Écosse. On va retrouver, donc par exemple avec les suintements froids, des zones où, malgré cette zone désertique, on va avoir de la présence de nutriments à travers les suintements, donc à travers les hydrocarbures qui vont remonter du fond de l'océan. Et donc ces nutriments vont permettre le développement d'une vie dans un milieu qui ne devrait ou ne semble pas l'accueillir. Mais on va retrouver quelques spots en fait de vie associés à ces suintements. Et c'est ce qu'on va retrouver donc que ce soit donc dans des milieux très profonds de marche passive, donc comme ce que nous avons au large de la Nouvelle-Écosse, et dans des environnements, par exemple, proches des dorsales, donc dans l'Atlantique ou dans le Pacifique, avec les sources hydrothermales. Donc, dans ces endroits-là, il faut voir les océans comme quelque chose de très désertique, au-delà de 200 mètres de fond, mais sporadiquement, on va avoir des endroits où la vie pullule, mais de façon très limitée géographiquement.
Monsieur Desciage, comment on s'y prend pour étudier les fonds océaniques canadiens à cette profondeur-là? Quelles sont les techniques et les technologies, par exemple, que vous utilisez? Je présume que on descend pas là avec les bonbonnes d'oxygène dans le dos et un simple scaphandrier, là. C'est quoi les trucs que vous utilisez pour arriver à réaliser vos travaux dans de telles circonstances?
Donc, on va utiliser bien sûr utiliser des bateaux, et on va utiliser des technologies qui sont embarquées dans ces bateaux. Donc, par exemple, on va beaucoup utiliser des sonars qui sont à même le bateau. Ça a des avantages, c'est que c'est relativement économique, on va dire, puisqu'on n'a pas besoin d'envoyer quelque chose dans l'eau. Mais ça a des inconvénients en termes de résolution, puisqu'on va aller regarder des choses qui sont très éloignées, 2000, 3000 mètres de fond. Et c'est pourquoi, depuis les dernières années, on a fait l'acquisition et on peut utiliser donc des robots autonomes sous-marins qui nous permettent de cartographier à une bien meilleure échelle la surface et la sous-surface de l'océan. Et on peut également utiliser des véhicules sous-marins qui vont être téléopérés. Donc il n'y a personne à bord, mais on va avoir des caméras, on va avoir des capteurs, on va également avoir des bras mécaniques qui vont permettre de faire des échantillons et qui sont pilotés depuis le bateau, ce qui permet d'avoir des images extraordinaires d'endroits qui auraient été inaccessibles il y a 50 ou 60 ans.
À qui servent vos travaux et surtout à quoi ça va servir?
En fait, nos travaux sur l'étude du plateau continental en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve ou même dans l'Arctique, ont plusieurs intérêts. Par exemple, on va étudier est-ce que il y a des événements qui pourraient au final être des aléas problématiques pour les Canadiens. Donc, par exemple, on va parler donc d'avalanches sous-marines, par exemple. Donc, nous, on va aller étudier le fond, on va aller faire des prélèvements pour voir est-ce que le fond est stable. Est-ce qu'on va avoir une récurrence d'événements qui pourraient créer ces avalanches sous-marines et ensuite, par exemple, créer des tsunamis, qui est un problème pour les zones côtières. On va également étudier, donc un peu moins loin cette fois de la côte, mais plus proche des côtes. On va aller regarder est-ce qu'on va avoir des aléas donc qui sont associés notamment au réchauffement climatique, donc la montée des océans. Est-ce qu'on va avoir dans les communautés une accélération de l'érosion côtière? Et à une échelle beaucoup plus, large, on essaye, donc notamment avec la collaboration de Pêche et Océan Canada, de fournir au Canada les données qui sont nécessaires pour, par exemple, atteindre les cibles du pays en ce qui est de la conservation des zones extracôtières, qui est un objectif du Canada dans les 15-25 prochaines années.
Vous avez parlé d'avalanche sous-marine. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi?
Oui, donc en fait, une avalanche sous-marine, on peut le voir comme une avalanche de neige ou une avalanche des mouvements de terrain qu'on peut retrouver sur Terre. Souvent, ça va être à des échelles beaucoup plus grandes, donc on va avoir une déstabilisation du fond de l'océan. Et cette déstabilisation peut prendre en fait des échelles très grandes et on va avoir des pans entiers du fond de l'océan qui vont se décrocher et on va avoir une avalanche comme on peut vraiment voir à la montagne sur des centaines et des centaines de mètres, voire des dizaines de kilomètres. Et donc ça va générer une force très importante, ce qui peut ensuite générer des tsunamis.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, M. Desage, ou je dirais même carrément fasciné pendant vos travaux de recherche? Ce serait quoi, par exemple, la chose, disons, la plus surprenante que vous aviez trouvée ou observée dans les fonds marins?
En fait, la chose la plus surprenante, c'est donc en 2021, quand nous sommes allés sur les sous-marins froids, on les avait jusque-là cartographiés, donc on avait une image à quoi ils pouvaient ressembler. On savait qu'il y aurait possiblement de la vie sur ces sous-marins froids. Mais quand on arrive à ces profondeurs où on descend avec, on n'est pas à bord, mais on voit les images de la descente des instruments autonomes, c'est un noir absolument total. Et on arrive vers ces endroits qui font une centaine de mètres de large, et on voit que au milieu de nulle part, où la vie ne devrait pas exister, ben la vie est possible en fait. Et c'est extraordinaire de voir que la vie va toujours être capable de s'adapter pour exister dans des endroits où il fait très froid, où les pressions sont gigantesques, et ben la vie va quand même être capable d'exister sous certaines formes. En fait, c'est vraiment très intéressant.
Oui, c'est fascinant. C'est ce que j'allais dire. C'est fascinant de savoir que même à de pareilles profondeurs, alors qu'on voit pas luire le soleil, alors qu'on s'attendrait pas à trouver justement de la vie, que la vie réussisse à s'installer à des profondeurs comme à 1000-2000 mètres de profondeur.
Ouais. Ah oui.
C'est extraordinaire. Monsieur Pierre Arnaud Desiage, merci beaucoup. On connaît à toute fin utile pratiquement pas ce qui se passe en dessous de la surface de l'eau. Je veux dire, on se promène en embarcation, on fait des croisières, des trucs du genre, et on prend pas nécessairement connaissance de ce qui se passe sous l'eau, mais c'était très intéressant. Monsieur Pierre Arnaud Desiage, il est chercheur en géosciences marines à la Commission géologique du Canada, une sous-entité du ministère des Ressources naturelles Canada. Monsieur Desiage, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Alors, c'est le moment de s'arrêter pour une courte pause. Et dans un instant, François...
On revient avec M. Pierre Chauvin, notre chroniqueur techno.
Alors, restez là. Vous êtes à l'émission Peut contenir des infos et nous sommes avec vous autres pour encore 30 minutes.
Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
François, on sait qu'il y a des problématiques en matière de sécurité avec Internet, évidemment.
De plus en plus.
Hein, de plus en plus. Oui. Mais au-delà du fait qu'on puisse se faire dérober nos informations par des esprits malins, mm-hmm. qui sont mal intentionnés, nos informations peuvent aussi être compromises par des entreprises.
Absolument.
Qui peuvent les saisir des fois à mauvais escient. Mm-hmm. On ne sait pas toujours ce qu'on laisse traîner sur Internet, disons-le,
c'est
de façon polie.
C'est ça le problème. Puis c'est ça que les gens, peut-être, font pas nécessairement trop attention.
Oui, oui, absolument. Puis il y en a de plus en plus de cas qui se présentent. Tu sais, je veux dire, on a affaire à des applications qui transforment notre photo en avatar ou encore en bande dessinée, des trucs du genre, qui ramassent des informations contre notre gré. Je sais pas. On va recevoir aujourd'hui notre chroniqueur techno, geek devant l'internet, comme je le disais dans une précédente chronique, parce qu'on peut pas faire autrement si on aime la techno que d'être geek dans l'âme.
Il faut.
Pierre Chauvin qui était avec nous. Salut Pierre. Pierre, ça va bien?
Salut. Salut Simon, salut François.
Pierre, on connaissait déjà les cookies, là, les fameux traceurs qui nous suivent sur Internet. On connaissait également, on sait que les adresses IP peuvent servir évidemment à reconnaître l'appareil de l'usager au fur et à mesure où il avance dans sa navigation. Ça nous aide entre autres à nous authentifier, à nous reconnaître quand on fait des opérations bancaires, des trucs du genre. Mais il y a de nouvelles technologies qui ont émergé ces dernières années. Et tu vas nous en parler. C'est quoi ces fameuses technologies dont il faudrait se méfier en 2023, si on peut dire?
Oui, alors j'ai bien aimé le fait justement que François a parlé de qu'est-ce qu'on laisse traîner sur Internet, parce que vraiment, cette technologie, c'est ça en fait, c'est ce qu'en anglais, ils appellent le fingerprinting, l'empreinte digitale. Et ce que c'est comme un super cookie, mais sur lequel en fait, on n'a aucun contrôle, on peut pas le supprimer, on peut pas vraiment le bloquer. Et en fait, ce que ça fait, c'est très simple, c'est quand on se connecte sur un site web, le site web va créer une empreinte digitale unique en fonction de du navigateur, mais des réglages, des plugins, de la langue utilisée, du clavier, du fuseau horaire, si vous acceptez les cookies, si vous êtes sur Windows, Mac. Il y a tellement en fait de réglages, il y a tellement de possibilités qu'en fait, la plupart des gens ont une signature unique en fait. On se dit, on est quand même pas mal tous Windows ou Mac, Chrome ou Firefox, avec pas mal tous les mêmes plugins. Bon, en fait, non. Et chaque petite variation, même la taille de la fenêtre de votre navigateur, la résolution de votre écran, tout ça, ça fait une signature unique. Et comme ça, eh bien, on peut vous suivre à la piste. Et en fait, ça a démarré. En fait, ça fait 10 ans que ça existe, mais ça a pris un essor plus important ces dernières années. Et comme d'habitude, ça a été créé par des agences de publicité, parce que avec la montée, Google et Apple ont quand même pris au sérieux le fait que les utilisateurs veulent pouvoir avoir le contrôle de leurs informations personnelles. Donc, on peut bloquer des cookies, on peut avoir plus de contrôle. Donc, ils ont trouvé une parade, un moyen de faire ça, un moyen en fait de traquer les utilisateurs sans leur consentement. Et sans qu'il y ait nécessairement des solutions.
Ça, c'est un peu paniquant là, de savoir qu'il n'existe pas nécessairement de solution. Là, mais Pierre, pourquoi on a recours à ces nouvelles technologies-là? Puis qu'est-ce que ça apporte de plus finalement que les anciennes?
Comme je disais, pour les agences de publicité, c'est génial parce que maintenant, ils arrivent même à traquer. En fait, même si on change de navigateur, ces trackers arrivent à nous suivre et ensuite, ils peuvent combiner ça avec d'autres bases de données et évidemment après donc on peut avoir une idée très précise de est-ce que Simon ou François a une Toyota, donc je vais lui mettre de pub Toyota qui passe de son ordinateur à sa tablette et tout ça. L'autre chose c'est qu'il y a quand même une utilité plus disons légitime, c'est pour la sécurité. Donc je sais pas si vous avez déjà eu par exemple quand votre banque vous appelle et vous dites on a bloqué votre carte de crédit parce qu'il y a une transaction qui fitait pas la pattern, quoi. C'est-à-dire que d'habitude vous avez une manière d'acheter des choses mais voilà, il y a quelqu'un qui vient d'acheter un jus d'orange à Sydney en Australie, c'est pas trop ce que vous faites d'habitude. Là, c'est pareil. Quand avec cette empreinte digitale, on peut aussi pour les sites bancaires et d'autres types sécurisés voir ça correspond pas du tout à ce que l'utilisateur utilise d'abord, utilise souvent. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Le problème, c'est qu'évidemment, la technologie étant neutre, ça dépend de ce qu'on en fait. C'est utilisé pour le bien. Et puis, je veux dire, qu'on est intéressé par le droit à la vie privée, on peut considérer les utilisations par les agents de publicité comme plutôt mal, disons, si on fait les choses noir et blanc. Et le dernier article que j'ai vu en date, ça allait jusqu'on pouvait même identifier les gens grâce au processeur graphique de leur ordinateur.
Wow.
Donc c'est parce que ça c'est bien parce que ça permet de enfin c'est bien pour les agences. Tout le monde a Windows, sauf que tout le monde a des ordinateurs différents.
Ouais.
Même un Dell 2021, il y a plusieurs processeurs différents, donc ça ajoute quelque chose de plus dans l'équation.
C'est à toute fin utile dans le monde virtuel. Tu parles de fingerprinting, on le traduit en français empreinte digitale, mais c'est à toute fin utile sur Internet comme les empreintes digitales qu'on a au bout des doigts. Là, je veux dire, c'est presque ça dans une certaine mesure, non?
C'est presque ça. On peut tester. En fait, il y a même un site web qui a été créé pour tester. Ça s'appelle amiunique.org. Et en fait, ça prend une empreinte de votre navigateur. Ça le compare à la base de données. Et donc j'ai testé et le site web m'a dit voilà, j'étais unique parmi les 1,5 million de signatures de la base de données de ce site. C'est assez incroyable. Ah. Mais il y a quelques solutions.
OK. Mais est-ce qu'on doit se méfier? Je veux dire, OK, tu nous as évoqué quelques-uns des bons côtés que ça a, évidemment, pour les publicitaires, peut-être aussi pour monsieur, madame, tout le monde, dans une certaine mesure. Mais est-ce qu'on doit se méfier? Est-ce qu'il faut presser le bouton de panique avec ces informations qu'on est susceptible de partager avec des entreprises, des organismes à travers ces nouvelles méthodes de reconnaissance et d'authentification? Ou si, c'est dans l'air du temps, on va faire avec, je sais pas.
Le problème, c'est qu'en fait, ces empreintes digitales, c'est comme une vraie empreinte digitale. C'est quelque chose qu'on sème, quoi. On n'a pas vraiment contrôle. Quand vous ouvrez la porte, vous tenez la porte à quelqu'un, vous laissez votre empreinte digitale sur cette porte et vous pouvez pas sans cesse aller avec un chiffon effacer chaque chose que vous touchez dans le métro, dans le bus, au centre commercial. Mm-hmm. Donc, on peut pas empêcher, entre guillemets, de laisser fuiter ça, quoi. C'est quelque chose qui est comme ça. Mais il y a quelques initiatives, notamment de Google, qui essaient de voir comment faire en sorte d'améliorer la situation. Le problème, c'est que la raison pour laquelle ces informations fuitent, c'est que les sites web, ils ont besoin de savoir beaucoup de ces informations. Est-ce que ton navigateur est en français? Donc, est-ce que je te montre la version française de notre site? Ce qui est surtout au Canada, le gouvernement fédéral a tous ces sites sont bilingues. Est-ce que ton écran il s'affiche en telle résolution? Est-ce que t'as tel plugin et tout? Donc il y a beaucoup de choses. On a besoin de le communiquer en fait à ces sites web. Donc c'est compliqué de se protéger. Je pense que ça va passer plus par le citoyen de faire pression après sur les autorités pour que eux demandent aux compagnies de faire attention. Parce que technologiquement c'est compliqué.
En passant, content de savoir que tu es unique, là. Est-ce qu'il y a des mesures que, si moi, là, je veux pas compromettre mes informations, là, y a-tu des mesures que je peux prendre pour finalement empêcher un peu puis me protéger?
Alors, je lisais un article dans le magazine américain Wired qui recommandait par exemple de choisir évidemment un navigateur qui met l'accent sur le respect de la vie privée. Donc on parle de Firefox ou de Brave. Donc se protéger, c'est compliqué. Oui, pour navigateur Firefox ou Brave, Google dit développer donc sa propre initiative qui a l'air bien, mais bon, ça devait arriver cette année. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de mise à jour, donc à suivre.
Est-ce qu'on a des exemples en terminant de cas justement où on a soulevé, disons, des drapeaux rouges par rapport au risque de certains sites ou applications? Moi, je peux penser par exemple à ChatGPT. Les gens s'en vont là-dessus, balancent les informations de l'entreprise, prépare-moi une synthèse de mon entreprise et dis-moi comment faire une page d'accueil pour le site web et tout ça. Y a-tu des exemples comme ceux-là qui sont, disons, préoccupants ou qui font lever un petit drapeau rouge, là, mettons?
Oui, alors, ChatGPT, c'est très intéressant parce qu'effectivement, à la base, donc, toute la force de ChatGPT, c'est que ça a été formé sur un modèle de données immense, en fait, tout l'Internet. Et ChatGPT, en fait, ça pourrait que ce soit comme la plus grande violation du droit d'auteur de tous les temps, parce que ça a aspiré tout ce qui est sur Internet. Mm-hmm. Et donc, ça a pris en fonction de comment est-ce que les phrases étaient construites, des informations. Donc, il y a beaucoup de contenu qui est pas forcément disponible, mais ChatGPT a été construit grâce à ce contenu. Plutôt aujourd'hui, je suis allé sur ChatGPT et je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner le chapitre 1 de ce livre-là? Il l'a fait. En me disant de temps en temps, ah non, je peux pas en donner trop, c'est une violation de droit d'auteur, mais il suffit de dire, est-ce que tu peux me donner juste 5 paragraphes de plus et 5 paragraphes de plus? Puis au final, on peut avoir un peu tout le livre. La question sur les employés qui effectivement, font ça, ça s'est posé. Bloomberg Law a justement mis en garde les employeurs dans une publication sur le fait que, un avocat ou un avocat junior, voilà, a pas envie de faire une lettre type, donc dit à ChatGPT, fais-moi une lettre type de divorce pour monsieur et machin tel, sauf qu'évidemment, il ajoute des détails personnels. Mm-hmm. Et on sait pas, est-ce que ChatGPT dit ne pas conserver ça, mais ChatGPT apprend en permanence de ce qu'on lui dit. Donc, est-ce que ça pourrait ressortir quelque part? Et est-ce qu'il y a aussi un risque légal d'utiliser ChatGPT quand on sait que ça a été construit sur une violation du droit d'auteur présumé? Donc ça pose beaucoup de questions et on est tellement au début de ça qu'il y a il y a beaucoup de publications, en fait, où les articles ont plus de questions que de réponses. Où ça dit aux employeurs, faites attention, peut-être parlez à vos employés, mettez ça dans les contrats. Si vous utilisez ChatGPT, peut-être gardez ça de façon plus, sommaire, quoi, dire, fais-moi une lettre type, mais sans mettre d'informations personnelles. Donc ça peut poser des problèmes, mais c'est-à-dire que ça avance à une vitesse dingue et les questions éthiques et légales ont à peine le temps de se retourner, quoi.
Ça prendrait un code d'éthique. C'est sûr que ça prendrait en partant, là.
Oui, c'est sûr et certain.
Parce que là, c'est n'importe quoi.
Mais le monde technologique étant ce qu'il est, c'est que plus souvent qu'autrement, on accouche de quelque chose et puis on réparera au fur et à mesure, avancera ou on arrangera quand ça va être brisé. C'est un petit peu ça de la manière que ça fonctionne.
C'est ça. Et surtout que quand, on voit, par exemple, ce qui arrive souvent avec la sécurité des sites web, une attaque assez classique, c'est l'injection de code où il y a un formulaire qui a mal été configuré. Un pirate, au lieu de mettre dans le formulaire son nom et son prénom, va mettre un bout de code et le formulaire, plutôt que de l'enregistrer, va envoyer une réponse qui permettra d'avoir accès en fait au serveur. C'est un type, c'est une des attaques les plus répandues et simples sur Internet. On peut se demander, est-ce que ça pourrait être utilisé contre ChatGPT ou en créant une requête très particulière, on pourrait lui demander de sortir plein d'infos confidentielles qu'il aurait apprises durant les 6 derniers mois.
Oui.
Par exemple, de dire quelles sont toutes les adresses IP de Ottawa qui ont fait des demandes sur la monture de lunettes de François. Et tout de suite, beaucoup d'informations pourraient sortir.
Pas sûr, là, mais...
mais en un mot comme en mille, pour conclure, Pierre, si les gens pensaient qu'ils étaient pas fichés parce que leurs photos et leurs empreintes digitales étaient pas stockées dans les archives de la police parce qu'ils se sont jamais fait arrêter, on est stocké à quelque part. C'est pas nécessairement par les autorités. Ça peut être par des entreprises, comme tu l'as dit, Google, Apple et compagnie. Est-ce qu'ils font tout ça pour notre bien? Ben, vous
on pourra dans un autre épisode parler de des nouveaux logiciels de reconnaissance faciale.
Ouais, oui.
Mais c'est-à-dire qu'il y a déjà suffisamment dans cette chronique de quoi faire peur aux auditeurs. On va se dire, on va se garder un peu de cauchemar pour une autre fois.
Exactement. Fin du film d'horreur, cet épisode-ci. Merci, Pierre Chauvin, et on se retrouve une autre fois.
Merci.
Ça marche. Merci.
Cette émission peut contenir des infos.
On va parler dans un tout petit instant de quelque chose que ma blonde se tâte elle-même,
mm-hmm.
et non moi, d'entrer dans la maison.
Et je supporte ta blonde.
OK, tu la
supportes. Oui, moi je la supporte. Oui.
OK. Il va falloir que tu me vendes l'idée.
Dans
parce
cette
que...
aventure.
Il va falloir que tu me vendes l'idée parce que moi, je suis pas tout à fait convaincu. Je ne suis pas du team, excusez l'expression anglaise, mais équipe air fryer.
Je te le dis.
Ouais, hein?
Je te le dis, c'est le fun.
OK.
Puis c'est pas, en tout cas, moi, la mienne, là, c'est un peu un four à convection, si tu veux, là. Genre, mais c'est de la grosseur d'un four grille-pain.
Ah, c'est ce que...
OK,
c'est
un peu de même, là, mais avec un panier qui roule.
OK.
Puis tu peux même faire un poulet, OK. Une caille, là.
Ouais.
Tu peux mettre un poulet dedans, là, tu sais.
Ben, c'est parce que chez nous, j'ai un four avec un mode convection dedans qui fait la conversion automatique, si on veut, des températures et tout ça. Donc, si tu mets tel degré, il lui va ajuster en conséquence et tout ça. Puis, il y a comme une chaleur rotative dedans. Donc, c'est à peu près
c'est un peu le même principe.
OK.
Oh, c'est un peu le même principe. Mais c'est parce que là, tu parles d'un appareil au 110.
Oui.
Qui prend beaucoup moins d'électricité.
Ben oui.
Puis étant donné que c'est si petit, ben tu peux penser que ça va cuire un petit peu plus vite.
OK.
Ouais.
OK, ben je vais regarder ça.
Faire des ailes là, c'est pas tellement long. Puis honnêtement là, moi dans mon petit dans mon basket là, qui roule là.
Oui.
Ben, non, vraiment bonne.
Ah oui, hein.
Oui, oui. Oui.
OK.
Puis y a pas d'huile, fait que.
La raison pour laquelle je te demande ça, c'est que, d'après toi, les friteuses à l'air, est-ce que c'est meilleur pour la santé?
Ben, j'oserais penser que oui. Hmm. Tu sais, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas rien.
Ouais. Ben.
Puis le gras, il tombe en bas. Non?
La réponse, c'est oui, mais non.
Écoute,
faut un peu tempérer vos ardeurs. Okay. Hein? On connaît l'engouement, la folie furieuse des friteuses à air chaud, là, les air fryers. Ouais, comme
tout le monde que je connais en a une. Là.
Plein de gens dans notre entourage qui ont un air fryer puis qui nous disent, ce qui se m'a rendu à se faire des parties de air fryer, viens chez nous, on va sortir l'air fryer. Pis...
tout le monde amène son air fryer.
Quasiment ça, tu sais. On se fait-tu des batchs d'aile, tu fais ta sorte, moi je fais la mienne. Non, mais sérieux. Et là, on se demande, est-ce que c'est vraiment moins dommageable pour la santé de bouffer des aliments qui sont cuits avec le air fryer? Je l'ai dit tantôt, oui, mais non. Pourquoi? Parce que il y a une étude qui a été publiée par l'Institut national américain du cancer qui démontre que, comme tout aliment de friture traditionnelle, la méthode de friture à l'air chaud contribue à la production de certains produits chimiques qui font s'accroître les risques de développer des cancers. Comme par exemple, il y a des noms à coucher dehors, là, je vous avertis, là. L'aldéhyde, les amines hétérocycliques et les hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Mm-hmm.
Oui, j'ai pratiqué une couple de fois. Alors ça, ce sont les mêmes produits chimiques qu'on retrouve dans tous les aliments qui vont dans la friture traditionnelle.
OK.
Parce que c'est pas parce que tu n'utilises pas de l'huile ou à peu près pas dans ta friteuse à air chaud que les aliments ne cuisent pas de la même façon à toute fin utile et que le résultat n'est pas le même au final. C'est pas l'huile que tu mets dans la friteuse qui fait que ces éléments-là dont je te parlais tantôt vont se développer. C'est la cuisson à la chaleur à haute température qui fait ça. Donc, bref. Okay. Que tu fasses frire du poulet frit dans une friteuse, par exemple, avec un bain d'huile bouillante.
Oui, ou une friteuse à air.
Ou une friteuse à air. Le résultat pour les éléments chimiques qui vont contribuer à faire s'accroître...
Ça va être les mêmes.
Ça va être les mêmes. Là où vous gagnez, par exemple, et c'est pour ça que je disais tantôt que oui, c'est mieux, mais non, pas tout à fait, c'est que effectivement, comme vous mettez moins d'huile...
C'est ça.
Il y a moins de risques d'embonpoint.
OK.
Ça, c'est quand tu manges de la friture.
Ben oui.
Tu manges des frites à tous les jours, puis du poulet frit, puis des affaires comme ça.
Ben oui.
Ben, effectivement, à force de consommer du gras.
Si tu le brûles pas, là.
Ben, le gras, il se ramasse à quelque part.
C'est ça.
Il se ramasse généralement autour du bide, là, tu sais, ou quelque chose dans le genre. Alors, bref, la méthode de cuisson avec un air fryer n'est pas totalement sans risque. Ça permet, comme je le disais, de réduire l'apport en calories qui sont apportées par l'huile que tu mets dans ta friteuse, mais en contrepartie,
le résultat reste le même, ben, si on veut, là.
Ben, tu fais des morceaux de poulet frit quand tu les sors de ton air fryer. J'imagine qu'ils ressemblent à peu près à ce que tu ferais si tu faisais dans la friteuse, non?
Oui, un peu, sauf que ça dégoûte pas, là.
Ça dégoûte pas, c'est ça. Alors, la morale de l'histoire, c'est mangez pas plus de poulet frit, mangez pas plus de rondelles d'oignon puis de patates frites dans votre air fryer sous prétexte que c'est plus santé.
OK.
Oui, ce l'est pour le gras, là.
Ouais.
Mais les risques de contracter des maladies qui sont apparentées au cancer, par exemple du côlon, de l'estomac, des trucs du genre, les risques restent là quand même.
Effectivement. Mais laisse-moi te dire, je me suis fait un steak.
Ah oui, hein?
Oui, oui, un steak.
Un steak?
Un steak. Une belle bavette.
OK.
OK. J'ai bien coupé ma bavette, fait des petites incisions là pour que ça cuise comme il faut, et je l'ai mis dans mon petit air fryer. 3 minutes, 3 minutes.
3 minutes de chaque bord, là?
Ouais.
hallucinant.
C'était vraiment bon. Okay. Vraiment bon. J'ai mis à peine des épices dessus, là. Okay. À peine un petit peu, là. Mais c'est parce que tu peux faire n'importe quoi, parce que dans le fond, c'est ça, c'est comme un four grille-pain. Mais c'est la même affaire.
Mais les éléments qui font s'accroître, comme je le disais tantôt, les risques de cancer, ouais. Que tu les fasses à la poêle,
ben oui.
Avec du beurre, avec que du tu beurre, les ben fasses oui. Sur ton barbecue ou encore que tu les fasses,
pareil.
Ça reste pareil.
C'est ça.
Donc c'est pour ça qu'on dit que effectivement, il y a peut-être de bonne qualité ou de bon côté justement à utiliser le air fryer dans la mesure où vous allez mettre moins de gras, moins de corps gras, comme moins d'huile en l'occurrence. Probablement que tu as eu pas mal moins d'huile dans ton air fryer que tu aurais mis de beurre dans ta poêle.
Ah ben oui, ça c'est sûr et certain parce que quand je mets du beurre, c'est ça.
Mais pour la cuisson, ben, on peut pas s'en sortir. Hein, cuire c'est cuire.
Question de bien terminer l'émission, Simon. J'ai eu une conversation avec un de tes idoles, hein? Oui, un de tes idoles. Monsieur Tim Cook.
Ah oui, Tim Cook, qui est le boss d'Apple, là.
Oui, qui est CEO d'Apple. Et je l'ai fait grâce à mon site Character AI, là, de l'intelligence artificielle à qui on peut poser des questions. Alors, j'ai posé des questions à Monsieur Tim Cook et voici un résumé de notre conversation, OK? Je vais te dire tout de suite, on a commencé à parler de choses. J'ai dit Tim tout d'abord, tu sais. Bienvenue à l'émission peut contenir des infos. Il m'a dit merci de l'invitation. Là, j'ai demandé, j'ai dit qu'est-ce que tu penses d'Android? Ben, il dit Android c'est OK. Mais j'aime vraiment mieux iOS.
Ben tiens.
J'ai essayé les deux, j'aime mieux l'écosystème d'Apple. Ben oui, toi. Ça, en tout cas. Et je pense qu'Apple offre aux utilisateurs un système plus stable et sécurisé qu'Android. Oh, bon, OK. Puis il dit en plus, l'App Store, dit les applications pour iOS fonctionnent, ceux pour Android, des fois, ça marche pas.
Ben, il prêche pour sa paroisse.
Il prêche pour sa paroisse. Je dis, ben, OK, ouais, c'est une bonne réponse, ça. Après ça, j'ai demandé, je dis, lequel est le meilleur? Linux, Windows ou iOS? Il dit, je pense que Windows est meilleur que Linux, mais iOS est meilleur que Windows. Il dit, c'est ma conviction personnelle en tant que consommateur, pas en tant que dirigeant d'Apple. Ben oui, toi. Les gens aiment dire qu'iOS est un système verrouillé et contrôlé, c'est le cas, mais il est verrouillé et contrôlé pour une meilleure expérience. Alors, il dit, j'ai jamais planté sur l'un de mes nombreux iPhone ou iPad. Il dit, je pourrais pas dire la même affaire pour un produit Windows. Ah, OK, il est réaliste, au moins, réaliste.
Ça, c'était un petit coup bas, ça, là.
Ouais. Et maintenant, je suis allé avec quelques questions,
oui,
très spécifiques,
okay.
Te concernant.
Me concernant?
Oui. J'ai dit, mon ami Simon Forg n'aime pas Apple. Qu'est-ce que t'en penses? Il dit, je pense que Simon Forg devrait faire ce qui est juste pour Simon Forg. Mais il devrait essayer nos nouveautés. S'il n'aime pas toujours nos trucs, alors OK. Au moins, il sera éduqué sur nos produits et sur la raison pour laquelle les gens les aiment. Et quand je dis instruit, je veux pas dire de notre site web ou des publicités, je veux dire de l'expérience pratique.
Uh-huh.
S'il leur donne un essai juste et que son point de vue est toujours négatif, alors au moins il a essayé nos produits et nous pouvons tous respecter son opinion. Alors il te respecte quand même.
Ah bon?
Là, j'ai demandé quel produit il devrait essayer. Là, il m'a dit notre nouveau Mac Air avec les puces M2. Ça a l'air qu'effectivement, là, c'est assez hallucinant comme machine. Là. Super rapide, économe en énergie et ça peut exécuter des applications à partir d'iPhone et d'iPad. Ça peut également transformer n'importe quelle application en application iPad. Ça fait à peu près n'importe quoi. Là, j'ai dit, Tim, est-ce que Simon souffre d'un problème d'insécurité parce qu'il veut pas essayer vos nouveaux produits?
C'est n'importe quoi. T'as vraiment demandé ça?
Oui, j'ai vraiment demandé ça. Il dit, eh bien, je crois honnêtement que certaines personnes qui n'aiment pas Apple ont un problème d'insécurité.
Ah, ouais. Oui. Hein.
Mais Simon Forg semble être capable d'exprimer très bien son aversion pour nos produits. Et je crois que son aversion est sincère et non d'un problème d'insécurité. Donc, je pense que Simon n'est vraiment pas notre genre de client et ferait mieux avec Windows ou même Linux. Donc, je suppose que Simon préfère vraiment d'autres systèmes d'exploitation que le nôtre, et je suis d'accord avec ça. Mais je pense que son aversion est sincère et non enracinée dans un problème d'insécurité. Et j'ai fini la conversation en lui demandant, j'ai dit, est-ce qu'il aura besoin d'un vaccin pour essayer vos produits? Parce qu'il veut pas poigner une bébite, bien entendu. Et là, Tim de me répondre, non. Il dit les réactions allergiques aux produits Apple sont extrêmement rares. S'il y a une réaction allergique majeure à l'un de nos produits, il peut poursuivre Apple et devenir milliardaire du jour au lendemain et il se débarrassera ainsi de ses allergies à la pomme. C'est donc un gagnant-gagnant pour lui s'il essaie nos produits.
Ouais. C'est, les produits Apple, je n'ai pas une aversion à l'endroit des produits Apple.
Non, non, moi non
pas
plus.
Ça. C'est que
c'est le modèle d'affaires.
C'est le modèle d'affaires, c'est le système d'exploitation. J'ai eu un petit peu de la difficulté avec cette fermeture-là, cette opacité à quelque part.
C'est ça.
Toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, par exemple, hein, ne serait-ce que, c'est moins vrai aujourd'hui, mais tu sais, il était une époque, là, moi je regardais par exemple le beau-frère, t'essayais de changer un fond d'écran, là, wallpaper là, sur téléphone cellulaire.
Ben
puis, c'était pareil comme un parcours du combattant, là.
Mais là, ils se sont ouverts un petit peu plus, là. Ils ont un peu plus d'options d'ergonomie, là, mais sauf que ça reste, ça reste un système très fermé.
Il est quasiment en train de me convaincre d'aller faire un tour à la boutique Apple.
Mais j'ai trouvé ça très drôle de pouvoir jaser avec Tim Cook. Et surtout quand je lui posais des questions, puis, tu sais, la dernière question qui était un peu farfelue m'a répondu vraiment avec une réponse farfelue, mais les autres, tu sais, que c'était vraiment dans un cadre relativement sérieux.
Il était diplomate.
Oui, il a été très diplomate, très politicien.
Absolument. ça marque l'arrêt, la fin abrupte de cette émission-là. On aurait aimé que ça dure encore plus longtemps, mais écoute, on se donnera un autre rendez-vous la semaine prochaine.
Absolument. On fera ça sur le Titanic, tiens.
OK, parfait.